2001. Les deux tours. Il est très rare que deux personnes veuillent la même chose à un moment précis de l'existence. Quelquefois, c'est l'aspect le plus dur de la condition humaine. Claire Keegan. Elisabeth. 1. Je suis réveillé par une remontée acide qui enflamme mon œsophage. Foutue brûlure d'estomac. J'ouvre les yeux, regarde ma montre. Un peu plus de 6h30. Le soleil darde ses premiers rayons à travers les persiennes. J'entends les ronflements du type qui dort à côté de moi. Philippe, je crois, ou peut-être Damien. J'ai la nausée et la migraine. Les pensées embrouillées. Je m'extrais du lit avec précaution, ramasse mon soutien-gorge, mon jean, mon haut, mon blouson. Je quitte la chambre pour la salle de bain. Là, je m'inflige une douche presque glacée, un ersatz d'électrochoc pour reprendre mes esprits. Je me savonne vigoureusement le visage. J'ai besoin de retrouver du tonus et de l'énergie. Besoin surtout de retrouver les idées claires. En ce moment, ma vie s'effrite. Je dérive, je déraille, je fais n'importe quoi. Trop d'alcool, trop de sorties, trop de baises avec des mecs tous plus cons les uns que les autres. Je sors de la cabine, me sèche dans un peignoir propre que j'ai dégoté dans un placard. Je m'habille en quatrième vitesse et repasse dans la chambre sur la pointe des pieds. Aucune envie d'avoir une discussion matinale avec machin qui, heureusement, ronfle toujours. Dans le salon, je m'approche de la baie vitrée et aperçois l'enseigne colorée du restaurant The Odeon. Je suis à Tribeca, à l'angle de Thomas Street et de Broadway. Tandis que j'attrape mon sac à main, je retrouve peu à peu le fil de la soirée de la veille. Une invitation à vernissage dans une galerie d'art, suivie d'un dîner chez Nobu, d'une succession de cocktails dans les bars du coin. Dans l'ascenseur, je sors mon téléphone portable et consulte mes SMS. Bon anniversaire, Lisa chérie. Je pense fort à toi, maman. Putain, ça aussi, je l'ai oublié. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. 2. Jamais le bleu du ciel n'a été si éclatant. Un gobelet de cappuccino dans la main, je descends le long de Church Street. Je me recoiffe dans le reflet des vitrines. Ce matin, j'ai rendez-vous à Battery Park pour une séance photo organisée par un magazine féminin. Si je continue à faire du théâtre et à courir les castings, je ne gagne ma vie que grâce au shooting. J'ai bien conscience que ça ne va pas durer toujours et cet anniversaire est là pour me le rappeler. Cette dernière année, mon téléphone a sonné moins régulièrement. La mode a besoin de chair fraîche et j'approche dangereusement de la date de péremption. C'est l'heure de pointe et les trottoirs sont noirs de monde. Des milliers de personnes qui rejoignent leur lieu de travail. Des hommes, des femmes, des blancs, des blacks, des asiatiques, des latinos. Un flux, un brassage, une énergie. Je laisse traîner une oreille et capte quelques bribes de conversation. Le boulot, les enfants, la famille, les problèmes de cœur, les problèmes de cul. À 8h du matin à New York, chaque vie est un roman. J'arrive en avance à mon lieu de rendez-vous. Le bleu métallique du ciel et la brise légère donnent à la pointe sud de Manhattan une beauté à couper le souffle.
Hello Lisa!
Je reconnais Audrey Swan, la photographe qui doit diriger la séance. C'est une fille que j'aime bien. Je sais que nous partageons la même tranquille résignation. À 20 ans, elle se rêvait reporter de guerre et je voulais devenir Meryl Streep. Aujourd'hui, nous faisons toutes les deux des photos pour Ralph Lauren. Nous nous précipitons dans les bras l'une de l'autre. « Tu es tombée du lit ?» me demande-t-elle. « Les filles n'arriveront pas avant une demi-heure ?» Je l'accompagne jusqu'à la tente de maquillage que son équipe a installée au centre du parc. Elle me débarrasse de mes affaires tout en me proposant un café. Elle s'en sert un aussi et nous allons le déguster sur un banc de la promenade où circulent les passants et les joggeurs. Nous papotons au soleil pendant quelques minutes avec pour toile de fond les ferries, la statue de la liberté et Ellis Island. Nos problèmes de cœur, nos problèmes de cul, nos vies. Soudain, un jeune type sur ses rollers s'arrête à notre niveau. La main en casquette pour ne pas être ébloui par la luminosité, tournée vers le nord, il fixe le ciel d'une drôle de façon. Au bout d'un moment, nous nous retournons, nous aussi. L'une des tours du World Trade Center est en flammes. 3.
Ce n'est rien, sûrement un petit avion de tourisme qui s'est encastré dans l'immeuble,
assure maladroitement un cycliste. Pendant un quart d'heure, nous ne faisons rien d'autre que de regarder la colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel. Audrey a récupéré son appareil et mitraille le sommet de la tour, située à moins de 200 mètres de nous. Une joggeuse évoque ses souvenirs de l'attentat de 1993 qui avait tué 6 personnes, mais à cet instant, la plupart des gens pensent encore qu'il s'agit d'un accident. Puis un autre avion apparaît dans le ciel. un avion qui ne devrait pas être là, ni voler à une si faible altitude. Un avion dont la trajectoire improbable marque un virage pour venir percuter la deuxième tour. Une clameur de désespoir parcourt la promenade. La catastrophe à laquelle nous assistons est tellement surréaliste qu'elle nous laisse un moment désemparés. Puis, en moins d'une minute, nous comprenons que nous ne sommes plus seulement spectateurs, mais aussi acteurs du drame qui se joue devant nos yeux. Une prise de conscience qui déclenche un vrai mouvement de panique. Alors que la plupart des gens se mettent à courir vers l'est, en direction du Brooklyn Bridge, je décide de suivre Audrey vers le lieu de l'attentat. Armée de son objectif, dans le foisonnement des gyrophares, elle immortalise la stupeur, l'effroi, la peur. L'angoisse palpable des secouristes, les regards perdus, la foule sans repère, errante, déboussolée, fuyant une ruche incendiée. Sur les trottoirs, au milieu des rues, un kaléidoscope de l'horreur. Des corps ensanglantés, déchirés, brûlés, tordus par la douleur. La brutalité d'une scène de guerre. Beyrouth, en plein cœur de Manhattan. Partout des éclats de verre, des gravats, des débris de métal, des milliers de feuilles de papier qui voltigent dans les airs. Partout le chaos, la fumée, l'apocalypse. Partout les hurlements, la désolation, les appels à Dieu. Puis une rumeur se répand dans la foule. Un troisième avion vient de s'écraser sur le Pentagone. Dépassé par la situation, les policiers nous incitent à fuir vers le nord. Je cherche Audrey du regard, mais elle a disparu. Je crie son nom, elle ne me répond pas. Alors qu'elle m'avait épargné, la peur m'envahit à mon tour. Je m'élance sur Church Street lorsqu'un ronflement monstrueux se déclenche. Le râle du Léviathan, la colère du dragon. Je me retourne et je me fige en découvrant l'impensable. L'une des tours est en train de s'effondrer. Comme fracassée par la foudre, le gratte-ciel s'affaisse, avalé par le sol dans un nuage de béton et de poussière. Je suis terrifié, tétanisé. Autour de moi, les gens hurlent, courent, halètent, cherchent n'importe quel moyen pour sauver leur peau et échapper à l'avalanche de cendres et d'acier qui ensevelit tout sur son passage. Une déflagration continue. Je vois la vague de débris, de gravats et de poutres métalliques qui déferlent. Un gargouillis terrible. Je sais que je vais mourir. Putain, ça n'aura été que ça, ma vie. 4. Pourtant, je ne suis pas morte. Il est 8h du soir, ce 11 septembre. Je suis assise au comptoir de l'Empanada Papas, le bar à tapas situé à deux blocs de mon appartement. Au moment où la tempête s'est abattue sur moi, j'ai senti la main d'Audrey qui attrapait la mienne pour me tirer à l'intérieur d'une épicerie. Réfugiée derrière un congélateur, les genoux serrés, les mains sur la tête, le corps recroquevillé, nous avons laissé frapper le cyclone. Comme une coque de noix au milieu de la houle, la boutique a été secouée, puis engloutie par le déluge, ensevelie sous un flot de gravats. Lorsque je me suis relevé, j'étais au cœur d'une nuit nucléaire. L'air était gris, noir, plombé. Mon corps était recouvert d'une épaisse croûte de cendres. Je fais signe au serveur de renouveler ma consommation. Ici, au nord de Manhattan, on est loin du World Trade Center. Mais ce soir, toute la ville oscille entre état de siège et couvre-feu. Habituellement bondé et festif, le bar est aux trois quarts vide. Les rares clients ont les yeux rivés sur les écrans. Celui de leur téléphone, pour prendre et donner des nouvelles. Celui du poste de télévision, où les journalistes et les experts lancent des premières pistes pour décrypter l'attentat. Je prends une gorgée d'alcool. Aujourd'hui, comme beaucoup de New-Yorkais, j'ai failli tout perdre. Mais perdre quoi, au juste? Quelle vie? Quel amour? Si j'étais morte, à qui manquerais-je vraiment ce soir? Mes parents, peut-être? Mais, à part eux? Un souvenir étrange continue à trotter dans ma tête. Ce matin, lorsque la vague de béton a déferlé, au moment où j'étais persuadé que j'allais crever, c'est son image à lui qui a surgi dans mon esprit. Le visage d'Arthur Costello. Pas celui de ma mère ou de mon père, ni celui d'aucun autre homme. Pourquoi lui? Ça fait 3 ans que je ne l'ai plus vu, mais son souvenir occupe sans cesse mon esprit. Avec lui, j'étais bien. En confiance, stabilisé, élevé. Lorsque son regard était posé sur moi, j'avais cette impression rare d'être à la bonne place. Je devenais la fille, la femme que j'avais toujours voulu être. Mais comment vivre avec un homme qui n'existe qu'un jour par an? Un homme que vous ne pourrez jamais présenter à vos parents, un homme avec qui vous ne pourrez jamais faire de véritables projets? Un homme contre lequel vous ne pourrez pas vous blottir les soirs de solitude. Holy shit. Je termine mon verre d'un trait. Ce soir, j'ai tellement besoin de lui que je donnerais n'importe quoi pour le voir de nouveau débarquer dans ma vie. Alors, de façon un peu puérile, j'entrelace mes doigts, ferme les yeux et me mets à prier, comme lorsque j'avais 10 ans. Mon Dieu, s'il vous plaît, ramenez-moi Arthur Costello. Mon Dieu, s'il vous plaît, ramenez-moi Arthur Costello. Bien entendu, rien ne se produit. Résigné, je lève la main pour commander un autre cocktail. Tout à coup, venu des cuisines, un bruit de verre brisé fait sursauter tout le restaurant, comme si quelqu'un venait de laisser tomber une pile d'assiettes. Puis un cri jaillit qui fige toutes les conversations. Des regards inquiets se tournent vers l'arrière du bar, tandis que la porte des cuisines s'ouvre avec fracas pour laisser place à un homme surgi de nulle part. Un homme aux cheveux hirsutes qui porte une parka de la Croix-Rouge.